VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, les électeurs ont voté aujourd'hui dans les élections municipales aux allures de test pour l'ANC, le parti au pouvoir. C'est un scrutin où l'opposition pourrait l'emporter dans plusieurs grandes villes pour la première fois depuis la fin de l'apartheid en 1994. Nani Talani.
Le Congrès national africain est surtout menacé à Pretoria, la capitale, Johannesburg, le hub économique, et à Port Elizabeth, cité industrielle au bord de l'océan Indien. La bataille s'annonce serrée avec l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition de centre-droit qui contrôle déjà le Cap, siège du Parlement. Mais c'est à Port Elizabeth que l'opposition a le plus de chances. Dans cette ville portuaire, le chômage bat des records, 36% bien au-dessus du niveau national qui est près de 27% de la population active. C'est dire que les déçus de l'ANC sont nombreux. Hier, Julius Malema, le bouillon leader des combattants pour la liberté économique et transfuge de l'ANC, avait laissé la porte ouverte à une coalition avec d'autres partis d'opposition pour faire face à l'ANC dans une grande métropole.
Au Burundi, le gouvernement qui s'étonne du fait que l'ONU ait adopté dans la précipitation et sans son accord une résolution le concernant, refuse en bloc et en détail d'accueillir les 228 policiers de l'ONU qui ont comme mandat de tenter de ramener le calme et de faire respecter les droits humains dans le pays. Pour les autorités burundaises, les propres règles de l'ONU n'ont pas été respectées. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le porte-parole du gouvernement burundais, dans un communiqué lu à la radio-télévision nationale, a indiqué que le pays rejette toute disposition de la résolution 2303 autorisant le déploiement de 228 policiers onusiens sur base d'une proposition formulée par la France. Ces dispositions violent les règles élémentaires régissant la famille des Nations Unies et surtout la souveraineté du territoire burundais. Philippe Nzobonariba affirme qu'il y a 6 mois, le gouvernement burundais était d'accord pour le déploiement d'une équipe de quelques 20 à 50 policiers non armés pour renforcer les capacités de la police dans la lutte contre le terrorisme. Mais cette donne n'est plus d'actualité. Nous avons arrivé.
C'est vrai qu'au départ, le gouvernement du Burundi était d'accord pour le déploiement d'une équipe de quelques 20 à 50 policiers non armés pour renforcer les capacités de la police burundaise dans la lutte contre le terrorisme. Actuellement, cette hypothèse n'a plus de raison d'être et donc à reconsidérer. Toutefois, les 200 observateurs, experts et militaires de l'Union africaine que le gouvernement du Burundi a accepté restent les bienvenus. Il ne reste plus que la finalisation du mémorandum d'entente pour leur déploiement.
Le porte-parole du gouvernement a affirmé aussi qu'en proposant l'envoi d'une force policière au Burundi, la France, qui prend le témoin de la Belgique, semble ignorer l'évolution positive de la sécurité au pays des mille et une collines, à part les quelques incursions sporadiques menées par des terroristes en provenance du Rwanda voisin. Pour le gouvernement burundais, l'adoption de cette résolution ne fait qu'encourager les entreprises déstabilisatrices des groupes terroristes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé 5 ministres liés à Riek Machar sur des quais présidentiels hier soir, ajoutant à l'incertitude qui pèse donc sur l'application de l'accord de paix signé en août 2015. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Salva Kiir les a remplacés par 5 ministres proches de Taban Deng Gay, qui a remplacé fin juillet Riek Machar au poste de vice-président. Parmi les ministres congédiés figurent notamment Mabior Garang, fils de John Garang, héros de l'indépendance, et Peter Adwok Niaba, un membre influent de l'ex-rébellion. Le ministère du pétrole revient à Ezekiel Loul et celui de l'aménagement du territoire à Alfred Ladogor, qui est vice-président du SPLM-SPLA-IO. Ce dernier était jusque-là considéré comme un proche de Riek Machar. Ce remaniement fait suite à la démission lundi du ministre de l'Agriculture, Lama Kol, qui a déclaré que l'accord de paix était mort. Il intervient dans un climat de dissension et de violence armée depuis début juillet, une situation extrêmement tendue qui met en péril l'accord de paix du 26 août 2015.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Suite de notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui le Tchad. Réélu à l'issue d'une élection jugée peu crédible par les candidats du G6 d'opposition qui contestent sa victoire à la présidentielle du 10 avril, le président tchadien Idriss Déby Itno commence déjà à verrouiller son régime. Il a nommé plusieurs membres de sa famille et de celle de son épouse à des postes clés, alors que les candidats perdants de l'opposition menacent de former un gouvernement parallèle d'ici le 8 août, date de son investiture pour un cinquième mandat. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmajinga.
En attendant son investiture le 8 août prochain pour un cinquième mandat, Idriss Déby Itno persiste et confirme le caractère familial et tribal de son pouvoir. Il nomme trois de ses fils à des postes de responsabilité stratégique à la présidence. Zakaria Idriss Déby, directeur adjoint de cabinet civil, Amira Idriss Déby, chef du protocole, et Mahamat Idriss Déby, chef du groupement numéro 1 de la DGCE, Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, sa garde prétorienne. Pour le président du Rassemblement patriotique du renouveau, parti politique de l'opposition, Mahamat Bar Béchir, le président Déby veut transformer le Tchad en monarchie clanique.
Déby considère le Tchad comme un butin de guerre pour sa famille, pour sa communauté. Et donc nous dénonçons ce népotisme qui cherche à transformer ce pays-là en une monarchie clanique. Le Tchad est une république qui a des règles. On ne devrait pas accepter à ce qu'une seule famille puisse régner sur le pays de telle sorte, ne serait-ce que dans l'armée. 70% des généraux au Tchad sont de la communauté de Déby. Dans la police nationale, plus de 80% des contrôleurs généraux de police sont de la famille de Déby. Je pense que ces pratiques-là sont des pratiques antinationales qui sont en train de saper les fondements de la République.
Au lendemain de l'élection présidentielle contestée qu'il a confirmée dans son fauteuil, Idriss Déby Itno impose un de ses fils, Saïdi Idriss Déby, directeur général adjoint de la raffinerie de Diarmaya, à la sortie nord de N'Djamena. Ses gendres et ses neveux se partagent certaines régies financières. Daoud Hamid, le mari de sa fille aînée, prend la direction générale du trésor. Jamal Dirmi, un autre gendre, récupère la direction des douanes et des droits indirects, longtemps resté chasse gardée de son jeune frère Salah Déby Itno. Son neveu Ahmad Youssouf Itno vient d'être promu au poste du contrôleur des passagers et frais aériens à N'Djamena. Avec cette nouvelle fonction, Ahmad Youssouf Itno cumule celle du directeur des renseignements militaires. Commentaire de Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Nous avons, il y a quelques années, publié une pétition pour dénoncer ces nominations basées sur le népotisme. Mais le pouvoir ne peut pas être uniquement basé sur la famille nucléaire du président de la République. C'est même une exagération.
Contacté par VOA Afrique, les courtisans du parti au pouvoir refusent de se prononcer. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Afrique du Nord, la Tunisie a un nouveau Premier ministre. Après la destitution de Habibi Sid le week-end dernier, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a choisi Youssef Chahid, 40 ans. Le nouveau Premier ministre a 30 jours pour former un gouvernement d'union nationale. Des précisions sur cette nomination avec Anastasie Toudièche.
Avant même l'annonce officielle de la désignation de Youssef Chahed, des Tunisiens ont dit apprécier son jeune âge, qui tranche avec le profil des dirigeants en poste depuis une révolution pourtant dite de la jeunesse. Le président Caïd Essebsi a 89 ans et Habib Essid, l'ancien chef de gouvernement, 67. Certains ont toutefois critiqué la promotion d'un membre du gouvernement sortant après le vote de défiance du Parlement pour congédier Habib Essid. La presse tunisienne s'est par ailleurs interrogée sur la marge de manœuvre du tout nouveau Premier ministre désigné. Le journal Le Quotidien soupçonne le président tunisien d'orchestrer une présidentialisation du régime. Et le quotidien Al Maghreb de renchérir, si Youssef Chahed veut réussir, il doit se considérer dès maintenant comme le capitaine du navire Tunisie et non pas comme un exécutant des instructions du président.
Campagne présidentielle aux États-Unis maintenant. Le président Barack Obama a vivement critiqué mardi le candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Le point avec Eric Manirakiza.
Le candidat républicain n'est pas qualifié pour être président, a lancé Barack Obama lors d'une conférence de presse à Washington. Je l'ai dit la semaine dernière, il n'arrête pas de le démontrer, a martelé le président américain, rappelant les propos controversés de Donald Trump concernant les parents d'un capitaine américain musulman mort au combat, invité à la convention d'investiture de Hillary Clinton la semaine dernière. En réaction, M. Trump a qualifié M. Obama de peut-être le pire président des États-Unis. En revanche, le républicain Richard Hanna, élu à la Chambre des représentants, est devenu hier le premier membre de son parti siégeant au Congrès des États-Unis a annoncé son intention de voter pour la démocrate Hillary Clinton.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet. C'est bien sûr, je vous le rappelle, voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.